VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, violence contre des manifestants en Ouganda, la police et l'armée ont tiré à balles réelles. Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Début de la commission d'enquête sur les accusations de corruption visant Jacob Zuma en Afrique du Sud. Au Sénégal, les préparatifs vont bon train pour la fête de la Tabaskie. Reportage dans ce journal. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En Ouganda, la police et l'armée ont usé de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'arrestation du chanteur et député Bobi Wine. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Des manifestants ont mis le feu à des pneus et à des palettes en bois et lancé des pierres vers les policiers. Le trafic était bloqué dans le centre de la capitale Kampala. Des policiers anti-émeutes et des soldats ont pris le contrôle des rues qui entourent le marché animé de Kireka et ont fait évacuer des quartiers entiers. Des centaines de commerçants et passants effrayés ont dû quitter les lieux sur une unique file, les mains en l'air sur ordre des soldats équipés de matraques. Sur la rue Nasser, site de nombreuses imprimeries et papeteries, les soldats ont aussi forcé des centaines de personnes à s'agenouiller pendant qu'ils patrouillaient la zone. À l'origine des émeutes, l'arrestation puis l'inculpation du député Robert Yakugulani, plus connu sous le nom de Bobi Wine. Très critique du président Yoweri Museveni, il s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse et des mécontents. Vendredi, son épouse et son avocat ont accusé les forces de sécurité de l'avoir brutalisé en détention. Le président Museveni a qualifié les accusations de fausses informations et a accusé le député de terrorisme visant à intimider les électeurs du parti au pouvoir.
Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et entamera début septembre un deuxième mandat de 5 ans dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste, malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Ibeka a donné un point de presse auquel a pu assister notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Pour cette audience solennelle, plusieurs requêtes avaient été formulées. La Cour les a rejetées pour forclusion, manque de preuves ou faute de mandat pour ceux qui ont formulé les requêtes. Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
Considérant que chacun des candidats a obtenu ses suffrages suivants. 1. Ibrahim Boubacar Keïta, 67,16%. 2. Soumaïla Cissé, 32,84%.
Avec 67%, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu président de la République du Mali pour un bail de 5 ans.
Par ces motifs, article 1er, proclame élu président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2, dit que le mandat de Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit.
Dans 15 jours, Ibeka prêtera serment devant la Cour suprême du Mali. Pour le moment, le candidat Soumaïla Cissé n'a fait aucune déclaration. Quant au président candidat réélu, il s'apprête à prendre la parole à partir de 17h. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, la célèbre chanteuse Kaïra Arbi, surnommée le Rossignol de Tombouctou et auteur de plusieurs chansons pour le retour de la paix dans le nord du Mali. Eh bien, Kaïra Arbi est décédée hier à Bamako. La ministre malienne de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a affirmé sa grande tristesse après l'annonce du décès de l'artiste. Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a lancé à Freetown son programme pour un enseignement primaire et secondaire gratuit à partir du mois prochain. Il concrétise ainsi une promesse de sa campagne. Julius Maada Bio a également annoncé que 3 mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme pour une éducation de qualité pour tous. Au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées dans 2 attaques de Boko Haram au cours du week-end dans le nord-est du pays. Samedi soir, des combattants sont arrivés par camion dans le village de Maïrari, à 10 km de la ville de Monguno dans l'état de Borno, et ils ont commencé à tirer et à lancer des grenades. Direction l'Afrique du Sud à présent, où une commission judiciaire d'enquête a commencé aujourd'hui à se pencher sur les multiples accusations de corruption au sommet de l'État qui ont abouti à la démission en février dernier de l'ex-président Jacob Zuma. Le point avec Idriss Fall.
Présidé par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo, cette commission spéciale a ouvert ses travaux à Johannesburg. Le juge Zondo a promis que sa commission n'épargnerait personne. Elle doit enquêter sur les éventuelles influences exercées sur le gouvernement ou des entreprises publiques pour en retirer un bénéfice personnel. Elle déterminera aussi si le président Jacob Zuma a violé la Constitution. Les conclusions pourront être transmises au parquet pour des poursuites. L'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan, en charge du portefeuille des entreprises publiques, a estimé à 6 milliards d'euros le montant des fonds publics détournés ces dernières années. Il fait partie des nombreux témoins qui doivent défiler à partir de demain mardi devant la commission. Monsieur Zuma est soupçonné d'avoir accordé de juteux contrats et des avantages indus à la famille Gupta, dont il est proche. Monsieur Zuma et les Gupta démentent catégoriquement les accusations portées contre eux.
La Zambie a décidé d'imposer une taxe sur les appels téléphoniques via Internet pour protéger les entreprises de télécommunications classiques. Les services de téléphonie en ligne, tels que Skype, WhatsApp et Viber, menacent l'industrie des télécommunications et l'emploi dans des compagnies telles que Zantel, Airtel et MTN. C'est ce qu'a justifié lundi la porte-parole du gouvernement, Dora Silia. Le gouvernement a donc décidé d'introduire une taxe quotidienne de 30 ni, soit 3 centimes d'euros, sur les appels téléphoniques via Internet. Cette mesure a été aussitôt dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression. En Libye, la mission de l'ONU, la MANUL, a appelé le gouvernement d'union nationale à poursuivre en justice les groupes armés entravant le bon fonctionnement des institutions étatiques dans le pays. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, une myriade de milices armées qui changent d'allégeance selon leurs intérêts et des groupes djihadistes font régner un climat d'insécurité chronique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, des coups de feu ont été tirés tôt ce matin contre l'ambassade américaine à Ankara sans faire de victimes. Des coups de feu dans un contexte de vives tensions entre la Turquie et les États-Unis à cause de la détention pendant un an et demi, puis l'assignation à résidence d'un pasteur américain. Washington a imposé des sanctions contre Ankara qui a immédiatement pris des mesures de représailles. En Espagne, un homme a été abattu aujourd'hui en attaquant une policière au couteau dans un commissariat de Catalogne. Les mesures de protection ont été renforcées dans tous les commissariats de cette région du nord-est de l'Espagne, qui a été frappée il y a un an à peine par des attentats djihadistes sanglants. Aux États-Unis, c'est le troisième jour de délibération dans le procès pour fraude fiscale et bancaire de Paul Manafort, l'ex-chef de campagne de Donald Trump. Paul Manafort est le premier envoyé au banc des accusés par le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Âgé de 69 ans, s'il est reconnu coupable, l'ex-lobbyiste et conseiller politique de renom risque de passer le restant de ses jours en prison. Le pape François a haussé le ton après un nouveau scandale de pédophilie, cette fois aux États-Unis. Une enquête des services du procureur de Pennsylvanie, publiée la semaine dernière, a mis au jour des abus sexuels couverts par l'Église catholique de cet État américain. Des abus sexuels perpétrés par plus de 300 prêtres prédateurs et dont ont été victimes au moins 1000 enfants. Dans une lettre ouverte, le pape affirme condamner avec force ces atrocités. Un journaliste iranien a été condamné à 10 ans de prison pour avoir insulté un imam du 9e siècle sur Twitter. Mir Mohammad Hossein Mir Esmaili avait écrit auparavant que l'imam Reza, l'une des 12 figures vénérées de l'islam chiite majoritaire en Iran, était l'un des nôtres. Il sous-entendait ainsi qu'il aurait autorisé les jeunes à s'amuser. Il a été arrêté en avril 2017 alors qu'il tentait de fuir l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Nigeria a enregistré un niveau record de devises avec 91 millions de dollars en 2017. Les entrées s'élevaient à 62,75 milliards de dollars en 2016. D'après la Banque centrale, ce chiffre est en hausse de 45%. Les entrées via la Banque centrale ont atteint plus de 42 milliards de dollars et les sources autonomes ont généré plus de 48 milliards de dollars. Le total des sorties de devises se chiffre à plus de 57 milliards de dollars, largement inférieur aux entrées. L'Algérie et la Mauritanie ont ouvert leur premier passage frontalier. Environ près de 10 millions de dollars ont été investis dans la nouvelle infrastructure, dont 49 unités de construction préfabriquées et comprend 46 bureaux administratifs. Les deux pays visent à dynamiser leurs relations économiques à travers la facilitation de la circulation des personnes et des biens. Ce nouveau projet permettra ensuite de mieux sécuriser la région frontalière de Tindouf, qui sert de trafic et de mouvement de groupes armés. En Éthiopie, le secteur manufacturier n'a atteint que 50% de ses objectifs d'exportation entre 2017 et 2018. D'après le ministre éthiopien de l'Industrie, le secteur a rapporté 487,5 millions de dollars sur près de 998 millions de dollars attendus. Les exportations totales du pays sur la même période n'ont pas dépassé 45,9%. Addis Abeba a mis en place un plan de croissance et de transformation qui devrait permettre au secteur de générer 3,5 milliards de dollars d'ici 2020.
La page sport, présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Nigeria cède face aux demandes de la FIFA.
Oui, la FIFA avait donné un ultimatum aux Nigérians pour restituer le siège de la Fédération Nigériane de Football au bureau élu en 2014. Les instances gouvernantes ont donc attendu le dernier moment pour reconnaître l'élection d'Amadou Melvin Pinnick et s'éviter ainsi toute sanction. La FIFA avait déclaré avoir été informée de la crise au sein de la fédération nigériane et l'a considérée comme une ingérence. À ce sujet, la FIFA menaçait de suspendre le Nigeria. S'il n'avait pas obtempéré, le Nigeria serait tombé sous le coup de sanctions de la FIFA.
Mohamed Salah en piste pour le titre de meilleur joueur UEFA de la saison.
Même si son mondial en Russie s'est arrêté prématurément avec 3 défaites de l'Égypte au premier tour, Mohamed Salah reste dans l'actualité. Le pharaon est dans la liste des joueurs nommés pour le titre de joueur UEFA de l'année 2018. Finaliste de la Ligue des Champions, sa saison de rêve avec Liverpool lui vaut cette nomination. Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde et meilleur joueur du tournoi, ainsi que Cristiano Ronaldo, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, sont candidats à ce titre.
Luka Modric, rappelé en sélection croate.
Le meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et son complice au milieu de terrain, Ivan Rakitic, figure dans la liste du groupe de la Croatie pour 2 matchs prévus en septembre contre le Portugal et l'Espagne.
Barrage aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le Benfica reçoit le PAOK Salonique demain, le Bate Borisov contre le PSV Eindhoven, l'Étoile Rouge de Belgrade face à Salzbourg, et puis mercredi l'Ajax contre le Dynamo de Kiev, le Vidi club hongrois face à l'AEK Athènes, les Young Boys de Berne contre le Dynamo Zagreb.
Décoration à venir pour Claude Leroy et Arsène Wenger.
Les entraîneurs français seront décorés vendredi par le président du Liberia, George Weah, dont ils avaient lancé la carrière de footballeur. L'actuel sélectionneur du Togo avait rencontré le jeune lorsqu'il était à la tête de la sélection du Cameroun. Il avait alors contacté Arsène Wenger. Ce dernier avait recruté Weah en 1988 à Monaco, où l'attaquant a lancé sa carrière, passé notamment par le PSG, le Milan AC, et avec un ballon d'or, c'était en 1995, le seul glané par un joueur africain.
Et enfin, le Tour du Faso passera par le Ghana.
La 31e édition du Tour du Faso, qui débutera le 26 octobre, fera une excursion au Ghana lors de la 2e étape entre la ville de Manga et celle de Bolgatanga, longue de 155 km. Autre innovation sur ce 31e Tour du Faso, le retour de l'épreuve du contre-la-montre par équipe entre Sabou et Kudougou sur une distance de 31 km. On rappelle que la 30e édition de ce Tour du Faso avait été remportée par le Marocain Salah Eddine Mraouni.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En Ouganda, l'arrestation puis l'inculpation la semaine dernière du député Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a provoqué des émeutes à Kampala. La police et l'armée ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré à balles réelles pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'arrestation du chanteur et député. Eric Manirakiza a joint à Kampala l'universitaire Adam Ioubi.
Bobi Wine représente la jeunesse ougandaise qui souffre beaucoup du chômage, de la pauvreté et beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été résolues par le gouvernement actuel. Alors, l'arrestation de Bobi Wine a provoqué la mère de la jeunesse contre l'État, et c'est ce qui s'est passé, je crois, aujourd'hui à Kampala. La jeunesse exprime la colère contre l'État. La population de la jeunesse en Ouganda, c'est environ 60%. La réception de Bobi Wine est quelque chose de très grand à travers le pays, très grave.
Comment Bobi Wine est-il arrivé à s'imposer justement comme représentant de la jeunesse?
Avant de devenir député, il faisait son occupation, son travail. Il est musicien. Alors, il faisait la musique et les chansons qu'il jouait, certaines étaient des chansons politiques. Alors, et il s'agissait des problèmes politiques en Ouganda, la dictature, le chômage, la pauvreté, et beaucoup d'autres choses. Alors, quand l'occasion s'est présentée, Bobi Wine, il s'est dit, c'est une occasion pour moi de devenir député et de pratiquer la politique du pays au sein du parlementaire. Et dès lors, je crois que son ambition s'est augmentée de jour en jour.
Le président Museveni s'est exprimé sur cette affaire. Est-ce que Museveni craint la montée de Bobi Wine, la popularité?
Oui, à mon avis. Parce que chaque fois qu'il y a eu une élection d'un député, depuis l'année passée, c'est le candidat qui a été supporté par Bobi Wine qui a réussi aux élections. Et à mon avis, le président Museveni doit craindre que si les élections présidentielles viennent encore, pourtant que dans 3 ans, et Bobi Wine décide de lancer son support contre M. Museveni, ça fera un grand problème pour M. Museveni. Il pourrait, ce qu'on appelle, mobiliser la jeunesse à travers le pays contre le président. C'est possible.
Adam Ioubi de l'université de Makerere à Kampala.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Sénégal, l'Aïd, communément appelée Tabaski, sera célébrée dans quelques jours. Elle est symbolisée par le sacrifice du mouton, un acte de foi qui est devenu une charge sociale presque obligatoire. Pour éviter d'être la risée du quartier, acheter un mouton est un quasi impératif, même pour les plus pauvres. Cette situation, combinée à la cherté des moutons, pose d'innombrables problèmes aux chefs de famille. Reportage à Dakar de notre correspondant, Seydane Sedina Abagay.
À Dakar, les points de vente de moutons ne désemplissent pas. À quelques jours de la fête de Tabaski, les chefs de famille se débrouillent comme ils peuvent pour trouver un mouton à la hauteur de leurs ambitions. Babacar estime qu'il est impératif d'avoir un beau bélier.
On est au Sénégal et les pratiques culturelles dominent la religion. C'est pourquoi beaucoup de gens achètent des moutons au-delà de leurs moyens. Certains sont raisonnables et se limitent aux recommandations religieuses, mais d'autres se sacrifient pour acheter des béliers à des prix exorbitants, car ils ont honte d'amener un petit mouton à la maison. Ils craignent surtout les moqueries de leur belle famille et de leurs voisins.
Pour Modou Faye, ceux qui achètent des moutons au-delà de leurs moyens se retrouvent souvent dans une situation financière désastreuse après la tabaski.
La religion a facilité les choses, mais ce sont les gens qui se compliquent la vie. Tu vois une personne qui a la possibilité d'acheter selon sa bourse, mais au lieu de cela, elle va acheter un mouton hors de prix pour finalement se retrouver avec des dettes insoutenables. On voit des personnes qui achètent des moutons à 500 000 francs CFA alors que leur salaire ne dépasse pas 250 000 francs. C'est pourquoi, après la fête, beaucoup de gens sont dans le pétrole.
Souvent pointés du doigt à cause de la cherté des moutons, les éleveurs estiment que les charges qu'ils supportent justifient les prix qui sont imposés aux clients. Abdoulaye Ndiaye tient un point de vente au quartier Zone B de Dakar. Il affirme que malgré tout, les clients ont toujours le choix d'acheter moins cher.
Élever un mouton, c'est trop dur au Sénégal. On dépense beaucoup parce que l'alimentation coûte très cher. C'est très dur d'élever un mouton au Sénégal. Ça s'explique par rapport aux races, parce qu'il y a les Touabir, il y a les Lado, il y a les Balibali. Je pense que les Touabir sont moins chers que les Lado.
Non loin du point de vente de Abdoulaye se tient un client très remonté. Pape ne cache pas sa colère. Il trouve les prix exagérés.
Beaucoup de gens risquent de ne pas avoir de moutons pour la fête car les prix sont anormalement élevés. Les éleveurs font ce qu'ils veulent car il n'y a aucun encadrement des prix. Les autorités devraient limiter les prix car les moutons deviennent de plus en plus chers chaque année. Et si rien n'est fait contre cette flambée des prix, il y aura une année où les moutons seront intouchables.
Au Sénégal, l'Eid, communément appelé Tabaski, sera célébré une nouvelle fois dans la division les mardis 21 et mercredi 22 août 2018. Considérée comme l'une des plus importantes fêtes musulmanes, la Tabaski est devenue un casse-tête pour la majorité des chefs de famille qui doivent coûte que coûte trouver un mouton pour satisfaire une recommandation religieuse qui se transforme de plus en plus en exigence sociale. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Le pape François a condamné dans une lettre les abus sexuels de pouvoir et de conscience perpétrés par des prêtres sur des enfants pendant près de 70 ans en Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Cette réaction du souverain pontife fait suite à un rapport détaillant le vécu d'au moins 1000 personnes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part d'environ 300 prêtres. Yacouba Ouedraogo a joint le père Gérald Murray, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York et professeur de droit canonique.
Le pape reconnaît maintenant dans cette lettre qu'il y avait un grand problème et que ce problème continue actuellement. Et c'est le problème des prêtres criminels qui ont fait des actes sexuels contre des innocents. Et aussi il reconnaît qu'il y avait un abus de pouvoir, que les autorités ecclésiastiques n'ont pas fait leur devoir de protéger le peuple de Dieu.
L'Église n'a pas toujours condamné, ouvertement en tout cas, ces cas d'abus sexuels de la part de ses serviteurs. Pourquoi le faire maintenant?
Avec les révélations au cas de cardinal McTarrick, qui est l'ancien archevêque de Washington, disant qu'il avait abus sexuels contre plusieurs jeunes et aussi qu'il avait fait abus sexuels contre séminaristes et prêtres, et qu'il y avait des paiements d'argent pour se mettre en silence les victimes.
Est-ce qu'on pourrait dire alors que c'est le rapport sur les victimes d'abus sexuels dans l'État de Pennsylvanie, ici aux États-Unis, qui a en quelque sorte forcé le pape François à enfin condamner cette pratique?
Oui, et maintenant nous attendons s'il va envoyer quelqu'un pour faire une investigation, comme il l'a fait en cas de Chili, où les évêques étaient impliqués dans le protéger des prêtres criminels. Je pense que cette lettre, c'est seulement un départ. Il y a des actions judiciaires de part de l'Église pour vérifier et franchement, on doit dire qu'il y a des évêques qui sont virés à cause de leurs actions.
Justement, vous parliez d'évêques qui seront probablement virés. Alors maintenant que l'Église condamne ces abus sexuels-là, quel sort, on se demande, va-t-elle réserver aux auteurs encore en vie et aux complices?
L'histoire est compliquée dans le sens que le rapport identifie beaucoup de prêtres évêques qui sont décédés.
Il y a le besoin dans l'Église de protéger l'ordre en droit, identifier et punir ceux qui sont en vie. Ça demande une investigation et ça doit être fait avec célérité. On ne doit pas attendre et je pense que le pape maintenant est conscient de cela.
Parler d'une action en justice, c'est probablement parler d'indemnisation, certainement au bout de la procédure. L'Église a-t-elle les moyens pour indemniser les victimes?
Et l'Église a les moyens, on peut dire. Nous avons déjà payé beaucoup d'argent pour les victimes.
Le pape dit adresser sa lettre au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut entendre par peuple de Dieu?
Je pense qu'il parle pas seulement aux évêques et prêtres et diacres, il parle aussi aux religieux et religieuses et aussi aux laïcs. La lettre, c'est une indication du fait qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Maintenant, il doit faire des actions pour faire face au fait que les gens qui ont fait des mauvaises choses ne doivent pas continuer d'agir comme évêques ou prêtres.
C'était le père Gérald Muret, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York et professeur de droit canonique. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a tiré sa révérence le week-end dernier. Quel héritage a-t-il laissé à l'humanité? Écoutons l'un de ses porte-parole, Stéphane Dujarric, qui revient sur la carrière et la personnalité de Kofi Annan. Stéphane Dujarric est au micro d'Irénée Herman Oumbo.
Nous avons perdu, comme on dit en français, un grand monsieur, quelqu'un qui a non seulement pendant toute sa carrière aux Nations Unies travaillé pour le bien de l'humanité, mais quelqu'un aussi après sa carrière aux Nations Unies, comme on le voit, n'a jamais arrêté de travailler pour l'humanité, pour rendre un monde plus juste, plus équitable, pour créer un monde meilleur.
Vous avez été son porte-parole pendant des années. Que peut-on retenir aujourd'hui comme héritage que Kofi Annan a légué à l'humanité?
Kofi Annan a su accompagner les Nations Unies dans le XXIe siècle. Et je crois que ce qui est important à souligner, c'est qu'il a ouvert les Nations Unies aux voix vives de ce monde. Pour la première fois, le monde du commerce était invité à parler. Les ONG ont reçu une place beaucoup plus grande dans les débats. Pour lui, afin de créer un monde meilleur, il était impératif d'avoir les voix non seulement des États, des gouvernements, mais aussi des voix vives.
Justement, certains le définissent comme étant une conscience morale planétaire, indiquant qu'il a essuyé certaines des pires tempêtes de l'organisation. Vous partagez cet avis?
Écoutez, il a été secrétaire général et il a aussi mené les opérations de maintien de la paix pendant effectivement des très grosses crises auxquelles ont fait face le monde et les Nations Unies. Il n'a jamais, pendant son mandat aux Nations Unies, il n'a jamais arrêté de travailler pour les idéaux que nous trouvons dans la charte des Nations Unies. Et il a toujours mis ça en avant.
Monsieur Dujarric, nul n'est parfait, dit-on souvent. Qu'est-ce qui rendait parfois l'homme désagréable?
Effectivement, nul n'est parfait. Et je crois que lui-même a souvent parlé de ses regrets pendant sa carrière aux Nations Unies.
Lesquels regrets, par exemple?
Il est clair qu'il a poussé les Nations Unies un regard introspectif sur les événements autour de Srebrenica en Bosnie, autour du génocide au Rwanda, pour éclairer où ont été les fautes, où ont été les problèmes au sein du secrétariat, au sein des États membres, du Conseil de sécurité, et pour tirer leçon de tous ces événements tragiques. Mais d'un point de vue personnel, je ne l'ai jamais vu être désagréable avec ses collaborateurs.
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, il était joint à New York par Irénée Herman Oumbo.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225 225-8-9240. Je répète, 225-8-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Wojtek Journiak, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.